88.3 FM.
Et si les animaux marins prenaient enfin le micro ?
Pollution plastique, biodiversité, aquaculture du futur, lagune de Thau, mission scientifique au Gabon.
À l'occasion de la Journée mondiale des océans, Radio Campus Montpellier et l'unité de recherche Marbec, spécialisée dans les sciences marines, vous proposent une programmation spéciale exceptionnelle.
Le Late Show de Ninette, des chercheurs, des reportages, des rencontres et 5 heures consacrées aux sciences marines.
Le lundi 8 juin sur Radio Campus Montpellier.
Une journée spéciale entre science, fiction et océan.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Montpellier pour cette émission spéciale, comme indiqué à l'occasion de la Journée mondiale des océans, partenariat avec l'UMR Marbec. Laissez-vous porter par ces vagues radiophoniques, nous embarquons pour un voyage au cœur de la recherche scientifique. D'escale en escale, de découverte en découverte, nous explorerons les multiples facettes de l'océan, cet univers à part entière qui couvre la majeure partie de notre planète. Notre embarcation, cher Moussaillon, sera The Late Show de Ninette. Car Ninette, c'est une dorade, mais elle veut en savoir plus sur le monde qui l'entoure, et je vous propose de l'écouter tout de suite.
Poiscailles, crustacés, méduses, requins complètement marteaux, poissons lapins, poissons chats, loups, requins tigres et habitants des grands fonds. Bienvenue dans le Late Show de Ninette.
C'est plus un late, c'est un don.
Après le succès complètement fou de nos 3 premiers Late Show, on continue. Merci d'être toujours plus nombreux, franchement, ça fait quelque chose. Comme toujours, toute l'équipe est là ce soir. Christine la langoustine pour ses fiches infos croustillants. Bonsoir à toutes et à tous. Kiss kiss. Notre pianiste Richard Lefoc.
Hello hello, on va avoir du fun à soir.
Et bien sûr, notre ingé son invirable, le neveu du directeur, Krabby le crabe.
Bonsoir.
Krabby.
Ah, flûte. Pardon, mais qu'est-ce qui se passe ? Bougez pas, je reviens.
Bon, ça y est, on peut commencer. Ce soir...
Il est où ce micro, bon sang ?
On reçoit un jeune ton, un ado, un artiste...
Test 1, 1, 2...
Bon, Krabby, t'as fini ? Tu vois pas que tu nous déranges, là ? Qu'on est en pleine émission ?
Oh, pardon d'être professionnel, hein, de réparer les problèmes techniques pour le late.
Je sais plus quoi faire. J'en étais où ? Tu demandais à Krabby s'il avait fini.
Ben oui, il est fini.
Bon, c'est pas gagné. Ah, oui. Il a gagné la Starfish Academy. Il a écrit un rap spécialement pour le Late Show. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Tony Le Thon. Tony ?
Ben, c'est bizarre, je l'ai vu derrière le rideau en allant chercher mon micro.
Krabby, va voir s'il te plaît.
Ok, Ninette, vivez.
Christine, un petit fiche info pendant ce temps-là ? Bien sûr !
Le fiche info de Christine.
Info rapide. Chez beaucoup de poissons, les jeunes vivent en groupe. Seuls, ils paniquent. En groupe, ils font les malins. Voilà, c'était le fiche info. Ah oui, c'est condensé. Oui, on m'a dit d'aller plus vite, alors voilà. Bon, ben, enchaînons. Krabby, des nouvelles de Tony ?
Tony ? Hé ! Psst ! C'est à toi ! Respire, mon gars !
Frère, il y a trop de monde, là ! Ça me fait flipper de ouf ! Mais en même temps, je veux y aller, tu vois, je veux pas rater, juste... pas comme ça, pas tout seul, wesh !
Oh, je crois qu'il est temps de faire usage d'un peu de psychologie.
Je crains le pire, moi aussi.
Tony, pince-mi et pince-moi sont sur un rossé. Pince-mi ton ballot, qu'est-ce qui reste ?
Bah, pince-moi !
Krabby, non ?
Aïe ! Oh, mais ça va pas ou quoi ? T'as craqué, toi ?
Allez, sur scène, maintenant ! Allez, oust !
Ouais, bah, c'est bon. C'est quoi ces méthodes de gangster, là ? C'est mon corps, ok ? Un. Yeah, wesh. Wesh. Un. Brrr. Ouais, ok, c'est Tony. On est sous le truc qui flotte, entre potes, toujours là le même spot. On attend, on fait les durs, on fait genre qu'on gère le décor. On tourne en rond, on fait les malins, on se regarde pour voir c'est qui le plus fort. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Stop, 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 vas-y stop la musique là. Stop. Vas-y coupe, coupe, coupe je te dis.
Ok.
Richard, tu peux me faire un truc profond avec ton piano, s'il te plaît ?
Richard, notre pianiste du Late Show. Il dort ?
Je vais le pincer ?
Richard !
Hein ? Quoi ?
Tu peux me faire un truc au piano pour que je puisse exprimer mes sentiments les plus sincères, s'il te plaît ?
Ok, ok, quelque chose de même.
Dans le vide du grand large, quand on sait plus où aller, on se retrouve sous les trucs qui flottent comme ça a toujours été. Ça tourne comme une transe, jusqu'à plus de force. Les nageoires lourdes, la tête qui décroche. On s'éclate trop tous ensemble. Un regard suffit. On se casse au large pour bouffer. Et puis on revient plus tard, ailleurs, ensemble, sous un autre truc qui flotte. Toi-même, tu sais. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais vous êtes sérieux, là ? Mais comme je vous kiffe, mais genre vraiment, pas je t'aime, je vous aime, je vous kiffe les gros. Truc de ouf. Merci Richard. Je la garde celle-là pour mon prochain album.
Ok, mais il va falloir qu'on parle des droits d'auteur quand même.
Tony.
Ok.
Respire, viens t'asseoir. Très heureuse de te recevoir sur le plateau du Late Show.
Wesh, salut les darons, salut les daronnes.
Tu as gagné la Starfish Academy. Ça devait être une sacrée expérience.
Ouais, carrément, mais le plus ouf, c'était les 8 jours avec les refs et les poteaux autour du truc qui flotte, là. Ça, c'était délire.
On se souvient de la finale avec Ricky, le requin soyeux.
Ricky ? Ouais, super poteau, il aurait dû gagner. Les requins traînent souvent avec nous sur les trucs qui flottent. Il y a aussi les balistes, les coryphènes. En vrai, il y a plein de monde là-dessous, wesh, hein. Des fois, on se fait des bœufs tous ensemble. Ça dure des jours, c'est de ouf.
Des bœufs dans la mer ?
Mais pourquoi vous allez toujours sous des trucs qui flottent, franchement ?
Bah, je sais pas, moi. Pour être avec les poteaux, c'est tout. C'est relou, toujours la même question.
Mais vous faites quoi dessous ? Vous tournez en rond ?
Ah ouais, on s'éclate tous ensemble. Il y a plein de monde, on en oublie même de graille. Et d'un coup, t'es en mode « Ah bah ouais, j'ai les crocs, là !» Alors on part bouffer, vite fait. Puis après, bam, bim, un autre truc qui flotte. On se fout dessous avec les poteaux et c'est reparti pour des tours.
Tu trouves pas qu'il y a de plus en plus de trucs qui flottent ?
Ouais, carrément. Il y a certains cons, il y en a partout. On sait même plus où aller. Tu veux retrouver les copains, mais du coup, tu sais même plus sous quel truc ils sont pour les retrouver. Je sais pas pourquoi, en vrai. Les vieux nous disent qu'avant, ils en avaient moins. Ils disent que c'était mieux, qu'au moins, ils passaient plus de temps à chasser pour manger. Ils disent qu'on passe notre vie à s'amuser sous ces objets. Et qu'un jour, on va le regretter.
Ouais, et justement, pour essayer de comprendre ça, on va utiliser le fichophone. Petit rappel, surtout pour toi, Tony, le fichophone permet de parler à un humain. L'humain qu'on va appeler chercheur, il étudie l'impact des trucs qui flottent, justement.
Ah ouais, lourd.
Notre humain croit qu'il est en direct sur une radio locale pour une émission tournée sur la mer.
Radio ta mère.
Règle numéro 1, on ne doit jamais dire ni laisser entendre qu'on est des poissons.
Sinon, grésillement. Et ça coupe automatiquement le phytophone.
On a déjà vécu ça, n'est-ce pas, Krabi ?
Hein ?
Tony ? Ça va, ça ? Ok pour toi, les consignes ?
Ouais, 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 vas-y, tranquille.
C'est ok, Krabi ?
Oui, oui.
Bonjour, monsieur Laurent Dagorne. Alors, vous êtes en direct à la radio ?
Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation.
Laurent, question importante. Quand il y a de plus en plus d'objets flottants, est-ce que ça peut devenir un problème pour les thons ?
C'est une vraie question. On ne sait pas encore si mettre beaucoup de DCP dans la mer, c'est bon ou c'est mauvais pour les thons.
Mais ça veut dire quoi, DCP ?
DCP, ça veut dire dispositif de concentration de poissons. C'est un objet que les humains mettent à l'eau pour trouver et pêcher plus facilement les thons tropicaux.
Oh, mais vous croyez que ça voulait dire Dancing Club Party?
Les DCP ont donc beaucoup augmenté les captures de thons et sont devenus un véritable enjeu pour la pêche.
Quoi? C'est quoi ce délire?
Quoi?
Ça a pas de ce petit bon sens, tabarnak.
Ah, faut s'attendre à tout avec les humains.
Chut. Écoutons ce que cet humain a à nous dire. Pourquoi les thons se regroupent sous ces objets? C'est tellement bizarre.
Les poissons aiment bien se retrouver là. On ne sait pas trop pourquoi. On sait juste qu'ils ne mangent pas les autres poissons qui sont sous le même objet avec eux.
Mais non, ça c'est normal. On est là pour tourner en rond, pas pour se goinfrer.
Tony, attention à la consigne. On ne doit jamais te dire, tu sais quoi.
Wesh.
Excusez-moi, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit là.
Oh, mais il comprend vraiment rien celui-là, bon sang. On veut savoir pourquoi les thons vont sous les DPC, les PCD, les trucs là.
DCP.
On dirait qu'ils utilisent un objet flottant juste pour se retrouver, pour former des gros bancs, mais qu'est-ce qu'ils y font? On pense
ça,
que...
Ça, c'est notre secret, ça, Patouche.
Pardon?
Oh, à moi, tu peux me dire ton petit secret, peut-être?
Docteur Dagorn, ils font peut-être la fête?
On peut dire ça, oui. Ils se retrouvent sous un DCP, ils repartent manger, puis ils recommencent ailleurs.
Et ça, c'est pas bien?
Les scientifiques ont eu peur.
Vous avez peur? Pourquoi vous avez peur?
Quoi? Si j'ai peur? Non, j'ai juste dit que s'il y avait trop de DCP, les thons n'ont plus assez de temps pour manger et s'affaiblissent. Et dans ce cas, eh bien, on pourrait avoir ce qu'on appelle un piège écologique.
Un piège?
Un piège?
Ah ah, je peux faire une musique qui fait peur, quelque chose de même.
Mais grave, je suis cramé, moi. Je passe mon temps à faire la fête avec les poteaux sous ces trucs flottants. On prend même plus le temps d'aller bouffer au large. Mais j'ai la dalle non-stop, j'ai les crocs.
Ça grévit quand même beaucoup, là.
Très vite, pourquoi il y a plus de DCP?
Tout simplement parce que ce sont les pêcheurs qui les mettent à l'eau. L'océan est immense et les DCP les aident beaucoup à trouver les poissons.
Ça perd l'hypopète. Je suis choqué, quoi.
Mais je vous rassure, les choses évoluent. Pendant longtemps, les pêcheurs utilisaient autant de DCP qu'ils voulaient. Mais grâce aux recherches, des limites ont été mises en place et aujourd'hui, ils en utilisent moins.
Et comment faites-vous vos recherches en plein océan?
C'est vrai, ça. Vous n'êtes pas des poissons.
Tout simplement, on prend un bateau, on va sur les DCP, puis on observe ce qu'il se passe sous ces DCP.
Sous les DCP? Vous savez nager?
Oui.
Ah bon?
T'as fini, Krabi, avec tes questions... comment dire... bêtes!
Elles sont bêtes, mes questions?
Alors, il n'y a jamais de questions bêtes. Hein.
Ah, vous entendez?
Moi, j'aimerais bien entendre la réponse. Comment vous faites, docteur Dagorn?
En fait, on pose des petits appareils sur certains poissons, sans leur faire mal, pour suivre quand ils vont et quand ils quittent un DCP.
Ah ouais, mais c'est pour ça que mon tonton Jack avait un truc bizarre sur lui. Il frimait avec le coquin, là, et après il est reparti direct faire la teuf.
Hey, attention à la consigne!
Oh là, oui, rapidement pour finir, qu'est-ce que vous apprenez avec tout ça?
On a pu mesurer combien de temps les thons passent sous les DCP et on a pu voir s'ils en visitent plusieurs.
Et vous avez constaté des changements depuis qu'il y a plus de DCP? Alors ça, c'est une très bonne question. J'allais la poser, justement.
Oui, on a constaté des changements et on a pu comprendre en fait que quand il n'y avait surtout que des morceaux de bois naturels qui flottaient, eh bien, les thons passaient environ 6 jours par mois. Mais aujourd'hui, avec tous les DCP qui sont mis à l'eau, ils vont passer environ 20 jours par mois dessous. Et c'est un véritable changement.
Ah bah voilà, c'est pour ça que moi et mes potes, on a toujours la dalle.
Quoi? Comment ça, mes potes les thons? Je comprends pas bien. C'est quoi votre radio exactement?
Oh, je crois que ça va couper.
Bon, voilà. Encore une fois, personne n'a respecté la règle du fichophone. Au moins, on a compris un truc important ce soir.
Ouais. Que se retrouver, c'est cool. Mais faut pas oublier de bien se nourrir entre deux objets flottants.
Ouais. Ben moi, j'ai faim. Hein.
Parce que quand on écoute mieux, on joue mieux aussi.
La mer, quand on la comprend, elle nous apprend à faire autrement.
Oh, c'est beau ce que tu dis, Christine.
Ouais, je garde ça pour un slam, les coquins.
Eh bien, c'est l'heure de nous dire au revoir, du coup. Bah, Krabi, lance le générique.
Oh, eh bien, ça va. Pas besoin de me crier dessus non plus.
Tony, une dernière chose. Tu as une tournée océanique en préparation.
Ouais, gros. Je vais faire des flopées de concerts dans les abysses.
Tu veux que ce soit ton invitant pour tes concerts?
Oui, bonne idée, Krabi. Bon débarras.
Ouais, merci, mais je crois que ta place, elle est ici au Late Show, Krabi, avec Christine et Ninette.
Ok.
Tu crois?
Ah, dommage. On se retrouve très vite pour un prochain Late Show de Nénette. Encore plus fou, encore plus fort. Portez-vous bien. Allez, kiss kiss.
Bye bye.
À prochaine, bye.
Bisous, bisous, bisous.
À bientôt à mes concerts, les potos. Wesh gros. Brr, brr, brr. Pa, pa, pa.
Bon, Marion, on m'avait prévenu, hein, faut décidément arrêter les radios locales.
Un jour, j'aurai mon émission, rien qu'à moi. J'en suis sûr. J'inviterai qui je veux, de ferai ce que je veux. Allez, oust, terminez Ninette et Christine. Zou!
Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez.
Alors, sur ce, difficile de reprendre l'antenne, vous êtes de retour donc sur les ondes, les vagues radiophoniques, devrais-je dire, de Radio Campus Montpellier. On n'arrête pas les radios locales, non, 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 puisque on retrouve en studio un des protagonistes de l'émission de Ninette, la Dorade. D'ailleurs, juste pour vous dire que si vous voulez retrouver l'ensemble des épisodes de Ninette, vous le retrouvez sur sa chaîne YouTube, hein, Ninette la Dorade, ou alors sur ninette.show. Je suis avec Laurent Dagor, qui est directeur de recherche à l'IRD et directeur de l'UMR Marbec. Bonjour Laurent.
Bonjour.
La pêche autour des dispositifs de concentration de poissons, les fameux DCP dont il était question dans The Late Show, on va en parler, hein. À l'heure actuelle, les thoniers, ça a pris une réelle ampleur, hein, ces DCP, puisqu'on a près de 3 millions de tonnes de thon qui sont pêchées chaque année par cette technique. Est-ce que ce comportement d'association des poissons aux objets flottants est apparu avec justement la mise en place des DCP modernes, ou est-ce qu'il était connu auparavant par les scientifiques?
Alors, il était connu par les scientifiques déjà avant, parce que déjà dans les années, on va dire avant les années 80-90, où les pêcheurs ont commencé à mettre ces DCP, il y rencontrait de temps en temps des billes de bois, des branches qui flottaient, et il savait qu'il y avait du thon qui était au-dessus. Donc déjà, c'était connu depuis très longtemps, mais surtout quand on a fait des recherches dans la littérature, on est tombé en fait sur un poète grec du 2e siècle après Jésus-Christ, qui, dans un recueil de poèmes qui s'appelle Aliotica, il décrivait des poissons, il décrivait des méthodes de pêche en Méditerranée, et il a décrit justement le fait que les pêcheurs cherchaient ces objets naturels flottants, ces billes de bois, parce qu'ils trouvaient plus facilement des poissons, et en l'occurrence, à l'époque, c'était des dorades coryphènes en Méditerranée. Donc on sait que déjà, au 2e siècle après Jésus-Christ, les pêcheurs recherchaient ces objets pour pêcher plus facilement du poisson. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles.
C'est juste l'amélioration de ces techniques à travers donc les dispositifs de concentration de poissons modernes. D'ailleurs, peut-être on peut représenter exactement qu'est-ce que c'est un dispositif de concentration de poissons sur les thoniers sonneurs. Et d'ailleurs, on peut présenter aussi ce que c'est les thoniers sonneurs.
Tout à fait. Alors, en fait, les thoniers sonneurs, c'est donc des bateaux qui, en général, sont plutôt gros. En tout cas, là, dans le cadre des eaux tropicales, ce sont des bateaux qui vont faire entre 60 et 100 mètres de long. Mmh. Pourquoi ? Parce que c'est des bateaux qui vont rester plusieurs semaines en mer avant de revenir au port. En l'occurrence, ce sont donc des bateaux qui vont pêcher uniquement autour de l'équateur ou dans les zones tropicales. Donc, même si ce sont des bateaux européens, français ou espagnols ou d'autres nationalités, ils ne viennent jamais en Europe, en fait, parce qu'ils vont débarquer leur capture autour de leur lieu de pêche. Donc, par exemple, dans l'océan Indien, ils vont débarquer souvent leur capture aux Seychelles, ou dans l'océan Atlantique, ils vont débarquer leur capture en Côte d'Ivoire. Mmh. Et donc, ce sont des gros bateaux qui permettent justement d'aller au large, parce que donc, c'est une pêche hauturière. On n'est pas du tout dans une petite pêche côtière. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut naturellement des bateaux qui peuvent permettre aux équipages de rester des semaines en mer en toute sécurité, bien entendu. Donc, d'où la longueur, bien entendu, de ces bateaux-là. Et puis, bien entendu, ben, ça leur permet aussi de capturer beaucoup de poissons avant de revenir aussi au port pour débarquer, parce que bien entendu, si vous êtes à une semaine de jour de mer pour revenir au port, eh ben, vous n'allez pas le faire tous les deux jours de pêche parce que ce n'est pas rentable. Donc voilà, donc la longueur, elle est aussi en lien avec, avec l'efficacité.
Et les DCP, donc les...
Alors, les DCP...
À quoi ça ressemble exactement? Parce que c'est vrai que c'est difficile de se représenter un DCP. Oui. On voit la bille de bois qui flotte, mais j'imagine que c'est plus compliqué que ça, là, maintenant.
Oui. Ouais. Alors, déjà, au tout début, ben, quand les pêcheurs se sont rendus compte qu'effectivement, quand ils trouvaient une bille de bois, ils trouvaient du thon et d'autres poissons, et donc ils pêchaient dessus. Et donc, naturellement, ils ont eu l'idée, eh ben, pourquoi est-ce que nous, on ne mettrait pas nos propres billes de bois? Donc, ils n'ont pas mis des billes de bois. Au tout début, c'était des radeaux de bambou. En fait, ils ont trouvé des bambous dans leur port de pêche. Et donc, ils ont fait des petits radeaux qui faisaient 2 mètres par 2 mètres. C'était des espèces de gros carrés.
D'accord.
Par contre, pour que ça se comporte comme une bille de bois à la surface de l'eau, une bille de bois, c'est lourd. C'est quelque chose qui va dériver avec les courants, mais pas avec le vent. Si vous mettez un radeau de bambou à la surface des océans, ça va d'abord dériver avec le vent. Et donc, ça ne va pas avoir le même comportement de dérive que la bille de bois. Donc en fait, ils ont décidé de faire une sorte d'encre flottante, c'est-à-dire de donner une structure sous l'eau. C'est-à-dire que sous ce radeau de bambou, en fait, ils ont accroché des choses et ils ont, au début en tout cas, ils ont accroché des vieux filets troués, etc. C'est-à-dire...
Pour que ça dérive avec le courant, c'est
exactement.
Ça
exactement. Ouais. Donc okay. C'était ancré dans la masse d'eau de manière à ce que ça se comporte vraiment dans l'eau comme une grosse bille de bois et de manière à ce que ça suive les courants de la même manière.
Et maintenant, dans la pêche industrielle, justement, il y a même des capteurs qui sont mis sur les DCP pour voir la quantité de poissons qu'il y a dessous.
Tout à fait. Alors, il y a deux choses qui ont changé au fur et à mesure. Premièrement, c'est que si vous mettez ces radeaux à l'eau, mais que vous ne savez pas où ils sont, ça ne va pas vous servir.
Eh oui, oui, oui.
Et donc, il faut savoir où ils sont. Donc, au début, ça a été des sortes de petits pingers radio qui leur permettaient de voir où est-ce qu'ils étaient. Et puis, bien sûr, avec les satellites, c'est devenu des petites bouées satellites. Mmh. Et maintenant, c'est carrément des bouées satellites qui, en plus, ont des sondeurs, des sonars, qui les renseignent pour leur dire s'il y a du poisson ou pas.
Comme ça,
sous la bouée.
Pas besoin de se déplacer si jamais il n'y a pas de poisson.
Exactement. Mmh. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ils ne se déplacent que s'ils ont un signal qui leur dit s'il y a du poisson ou pas. Et il y a eu une autre transformation. C'est qu'au début, donc, c'était ces espèces de radeaux de bambou avec donc, ces vieux filets, parce que ça leur permettait d'être ancrés dans la masse d'eau. On s'est rendu compte, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est qu'en fait, ces vieux filets pouvaient causer certains soucis. On en parlera un peu plus tard. Et donc, du coup, maintenant, le design même a changé. C'est-à-dire qu'on est vraiment vers des structures qui sont beaucoup plus légères. Ce n'est pas forcément des radeaux de bambou, où ça peut être très peu de flotteurs. Et puis, justement, une structure qui est beaucoup plus légère sous l'eau, qui est juste un bout, enfin, quand on dit un bout, une corde, quelque chose de beaucoup plus léger, qui permet quand même d'être ancré dans la masse d'eau, mais qui est beaucoup moins volumineux et qui a d'autres avantages.
Je reviens sur une question qui a été traitée dans The Late Show, notamment c'était tout l'enjeu, on va dire, du malentendu entre vous, Laurent, et Tony. C'est pourquoi les poissons s'associent-ils naturellement, à ces objets flottants? On peut se poser la question de quel intérêt pour eux de se mettre dessous?
Alors, cette question, ça a été la question qui, en fait, m'a quasiment amené dans le monde de la recherche il y a 35 ans. On est encore au stade des hypothèses.
Ah oui, d'accord.
35 ans plus tard.
Okay.
Et j'adore ce genre de questions parce que c'est ce genre de mystère, en fait, dans la nature qui nous guide et qui nous attire aussi vers ce monde de la recherche qui est de trouver et de comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que autour d'une simple bille de bois, d'une noix de coco qui flotte, vous allez pouvoir trouver 20, 30 tonnes de thon, 100 tonnes, 200 tonnes de thon.
Ah oui. Ok, d'accord. Oui, c'est énorme, c'est pas 4 tons qui se baladent.
Exactement.
Quoi.
Ouais. Alors vous pouvez avoir d'autres espèces, mais pas dans la même quantité. Et donc déjà, vous pouvez voir que la quantité qu'il y a de thon ne correspond pas, même si vous avez d'autres espèces qui peuvent être des proies, des genres de sardines par exemple, il y en a très très peu. Donc ça ne peut pas suffire par exemple à la quantité de thon qui se trouve autour de l'objet flottant.
Oui.
Et puis en plus, nous, on a échantillonné ces thons et on s'est rendu compte, enfin nous, toute la communauté scientifique dans le monde entier, on s'est rendu compte qu'ils avaient l'estomac vide. Quand ils étaient majoritairement sous ces objets flottants, l'estomac est vide. Donc ils ne se nourrissent pas de toute façon. Donc ça veut dire qu'on a compris, ok, au tout début on pensait que c'était une sorte de mini chaîne alimentaire.
Oui, ça veut dire que quand il y a un objet, c'est colonisé dans l'océan ou la mer, il y a tout un écosystème qui se développe. Et donc là, ça pourrait que les thons viennent pour se nourrir. C'était ça, en fait, l'hypothèse.
Exactement. La première idée, c'est parce qu'en fait, vous mettez un nouvel objet à l'eau, vous arrivez une heure plus tard, vous avez plein de petits poissons qui sont autour. Et puis vous attendez un peu, on a étudié ce genre de choses. Vous avez des poissons un peu plus gros, etc. Donc on voit effectivement quelque chose se former, une communauté se former.
Oui.
Mais les thons, en fait, ne viennent pas manger sur cette communauté.
Oui.
Donc c'était notre première hypothèse. Enfin, la première hypothèse, c'était une hypothèse qui existe depuis 50 ans, 60 ans au tout début. Et puis rapidement, on s'est rendu compte, ils ne viennent pas pour manger. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent ? Et en fait, il y a eu plein d'hypothèses. Et maintenant, on sait qu'il n'y en a plus que deux qui existent. Et ces deux, d'ailleurs, ne sont pas antagonistes. Elles peuvent exister les deux en même temps. La première hypothèse, c'est qu'à l'origine, ces billes de bois, elles viennent des continents. Elles sont charriées par les fleuves tropicaux lorsqu'il y a des tempêtes. Et donc, elles arrivent près des côtes. Et lorsqu'elles arrivent près des côtes, ce sont justement des eaux qui sont chargées en nutriments. C'est des eaux très riches, sur lesquelles il peut y avoir justement beaucoup de développement de nourriture.
D'accord.
Du phytoplancton.
Oui.
Du zooplancton, et puis donc les autres proies qui peuvent arriver. Donc ces zones riches, elles arrivent donc avec ces billes de bois sur les côtes, dans le milieu marin, et puis petit à petit, elles vont dériver avec les masses d'eau, et elles vont arriver beaucoup plus au large. Et dans ce cadre-là, les billes de bois pourraient être des indicateurs que la zone est riche. Donc ça voudrait dire que le thon, lorsqu'il détecte une bille de bois, il peut se dire « Ah, je suis dans une zone qui est riche, il sait qu'il ne va pas manger dessous ». Mais il va trouver. Je vais vous faire un parallèle. Si vous marchez dans le désert,
oui.
Vous ne voyez rien, vous ne voyez que du sable, il n'y a rien à l'horizon. Puis tout d'un coup, vous voyez quelque chose qui sort de l'horizon, qui monte tout d'un coup, et vous vous rendez compte, ah, il y a une tour, il y a des habitations, il y a un village.
Et oui, on se dit, sans doute de l'eau, de la nourriture.
Voilà. Mmh. Et ça ne va pas être pile sous la tour que vous avez vue au loin, ça va être dans des maisons qui sont autour, mais vous savez que cette zone, vous allez pouvoir trouver de l'eau, où vous allez monter. Donc la première hypothèse, c'était que ces objets flottants allaient être des indicateurs de richesse d'une zone.
D'accord.
Parce que ça venait justement d'eau très riche.
Oui.
Et après, il y a eu une deuxième hypothèse qui a été avancée, c'est que les thons sont des animaux sociaux. Mmh. Ils forment des grands bancs. On a parlé de 100 tonnes, 200 tonnes. Il pouvait y avoir vraiment des bancs de thons qui sont extrêmement gros. Et ce caractère de socialité, il est très important pour leur survie.
D'accord.
Mais il y a plein de mécanismes qui font qu'à un moment donné, un banc, eh ben, il va se scinder en deux ou en plusieurs petits bancs. Ça peut être parce qu'à un moment donné, ils chassent. Et donc, en chassant, à un moment donné, hop, ils vont se séparer. Ça peut être aussi sous l'effet de certaines tempêtes, sur plein d'autres. Ou des prédateurs, si ce sont des petits thons, par exemple, ils peuvent aussi avoir des prédateurs, des marlins, des gros requins qui viennent. Et donc, tout ça peut faire que les bancs se séparent.
Oui.
Et donc, il vous faut des mécanismes pour vous retrouver dans l'océan. Il n'y a pas forcément de point de rencontre. En fait, quand vous êtes en dehors de la côte, quand vous êtes près de la côte, nous, on est des humains, on a des repères, on est des animaux terrestres. On n'imagine pas qu'il n'y ait pas de repères. Mais mettez-vous dans un grand aquarium qui a 3000 mètres de fond et vous ne voyez rien, il n'y a pas de repères.
Dès qu'on fait de la plongée, on le voit bien.
Exactement.
On n'a aucun point de repère tout autour.
C'est
la même chose partout. Donc c'est
exactement.
Vrai que là, ça fait une hétérogénéité d'un coup sur le milieu, c'est ça
Exactement. Ça fait une hétérogénéité, donc ça peut faire un point de rencontre.
Ouais.
Comme si vous avez des amis, vous êtes donné un rendez-vous.
On se donne rendez-vous autour de la bille de bois.
Voilà.
Okay.
C'est ça. Et là, on peut se retrouver.
Ouais.
Donc voilà les deux hypothèses. C'est une hypothèse pour mieux trouver des zones riches ou l'hypothèse de reformer des bancs plus gros pour un caractère social.
Et je reviens sur aussi quelque chose qui a été évoqué par Ninette, par vous avec une discussion avec Ninette, c'est le terme de piège écologique. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Qu'est-ce que c'est déjà un piège écologique ? Et est-ce que ces fameux DCP sont réellement des pièges écologiques ?
Alors, le piège écologique, c'est une théorie en écologie qui est arrivée il y a une cinquantaine d'années. C'est une théorie qui dit que lorsque vous avez donc des animaux qui sont dans un habitat, ces animaux, en général, ils vont rechercher des ressources. Alors la ressource, ça peut être des proies ou des partenaires sexuels pour la reproduction, par exemple.
Oui.
Si on reste dans le système des proies, par exemple, eh bien, pour trouver ces zones riches, justement, beaucoup d'animaux vont rechercher des indicateurs parce qu'ils ont appris qu'il y avait une corrélation spatiale entre un indicateur qu'ils voient de loin et puis la présence de proies. Mais si à un moment donné, l'homme arrive et modifie ce paysage, il peut très bien mettre d'autres objets dans cet environnement qui vont tromper les animaux. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes un oiseau, vous êtes dans une forêt, et puis cet oiseau dépend d'arbres très grands d'une espèce où il y a certains arbres qui sont très très grands et ça leur permet de trouver plus facilement des proies. Si l'homme arrive et rajoute des poteaux télégraphiques qui ressemblent à ces grands arbres, eh bien les oiseaux vont pouvoir se tromper et les prendre pour ces grands arbres.
Et donc ils ne retrouveront pas la nourriture sur les poteaux télégraphiques.
Ouais, et là, il peut y avoir piège écologique parce qu'ils vont aller autour des poteaux, ils vont chercher des proies, ils ne vont pas se nourrir, donc ils vont, leur physiologie va diminuer et donc ils vont être atteints. Donc là, c'est typiquement un exemple théorique d'un piège écologique. La question s'est posée pour les thons il y a une vingtaine d'années, où justement quand les scientifiques se sont rendus compte que les pêcheurs déployaient ces nouveaux objets en plus, ils se sont dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces nouveaux objets ne vont pas amener les thons dans des zones pauvres, par exemple?
Oui.
Est-ce qu'ils ne vont pas se tromper avec ce genre de nouveaux messages? Parce qu'on vient finalement modifier l'environnement en rajoutant des nouveaux objets flottants. Donc on s'est posé la question, est-ce que finalement, sans parler de la pêche, le fait de rajouter ces objets, c'est mauvais ou c'est bon? Parce qu'il y a des situations où finalement de rajouter des indicateurs, ça peut parfois être bon.
Et c'est ce que vous observez, non? Parce que si vous observez que dessous les DCP, les thons sont affamés, ça veut dire que finalement c'est pas très bon pour eux, non?
Alors... Effectivement, ça a été la première conclusion lorsque les scientifiques se sont rendus compte que les estomacs des thons étaient vides.
Oui.
Donc beaucoup de gens se sont dit, ah ben, ça veut dire que c'est mauvais pour eux d'y aller.
On est en train d'affamer les thons. Ouais.
Voilà. Donc en fait, on est allé étudier des zones. Il restait quelques zones où il n'y avait pas de DCP, il n'y avait que des billes de bois. Et donc on s'est dit, on est un peu comme dans l'ancien système, comme il y a quelques siècles. On est allé pêcher, on est allé regarder les thons. Ils avaient aussi les estomacs vides. Donc ça veut dire que le fait de ne pas manger dessous, le fait d'avoir des estomacs vides, c'est quelque chose qui est normal. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec l'ajout de ces DCP. Alors on pourrait se poser la question, si c'est arrivé dans l'évolution, on voit que deux siècles après Jésus-Christ, déjà il y avait des poissons qui étaient sous ces objets flottants, mais que finalement ils n'y mangent pas et qu'ils ont même l'estomac vide, on peut avoir l'impression que ce n'est pas bon à court terme.
Oui.
Mais ça veut dire qu'ils doivent avoir un avantage évolutif à y aller. Et cet avantage, ça peut être justement parce qu'à terme, ça va leur permettre de retrouver des zones riches ou de former des bancs plus gros. Et donc, il y a un impact peut-être immédiat. Tiens, mon estomac est vide, mais peut-être que dans quelques jours, grâce à ça, je vais le remplir.
Très bien, merci. Merci Laurent. On va continuer, mais je voudrais faire une courte pause musicale. On parlera juste après d'autres impacts négatifs des DCP. Mais avant de reprendre notre discussion, petite escale québécoise avec mon oncle Serge, chanteur, on peut le dire, iconoclaste, figure incontournable du rock alternatif québécois, connu pour ses chansons à l'humour, noir, satirique et volontiers provocateur. Cette chanson avait d'ailleurs été interprétée ici même, dans les studios de Radio Campus Montpellier, il y a quelques années lors de son passage à la radio. Et ce n'est pas un hasard, si on l'entend aujourd'hui, mon oncle Serge a également participé au Let's Show que nous avons écouté un peu plus tôt en prêtant sa voix et son univers totalement décalé à cette aventure entre fiction, humour et science marine. Tout de suite, mon oncle Serge, Charlie Hebdo.
Alors, je vais vous faire ça, Charlie Hebdo. Si j'en juge d'après le peu que je connais, les gens de Charlie Hebdo, si la chose se peut, ils ont tous dû se retourner dans leur tombeau. Quand les chefs d'État et les potentats, rois de la mascarade, sont venus parader pour la liberté suite à la fusillade. Parmi ces mangeux de marde, ils sont nombreux, ceux qui auraient mis en tôle les dessinateurs sur lesquels ils pleurent et qu'ils trouvaient même pas drôle. À tout le moins, souhaitons que ces oeuvres seront juste assez conséquents pour bientôt redescendre dans vue pour pourfendre leurs propres agissements. C'est à ce point grotesque qu'on tomberait presque pas en bas de sa chaise si apparaissait le fantôme de Pinochet chantant la Marseillaise, répété en chœur par Adolf Hitler, Staline, Mussolini et Pétain scandant son nouveau slogan « Travail, famille, Charlie ». Je pense que j'ai jamais autant parlé de Pétain dans ma vie. En voyant tout ça, je me dis tout bas, j'espère que si un jour un hostie de malade au nom du djihad me zigouille à mon tour, On va s'abstenir de me faire subir en plus d'une mort si dole. Le deuxième outrage d'hypocrites hommages de tous les astites guignols. Comme si c'était pas assez d'être assassiné par de pauvres cocombes. Je ne veux pas entendre le cœur des ma tante chanter « Je suis mon oncle » et que les critiques qui me trouvaient pourri trouvent soudain des mérites à mes textes cabreux, mon humour graveleux et toutes mes tonnes de bites. Les terroristes, j'en suis presque triste, ont d'autres chats à fouetter. Qu'un d'autres chats à fouetter. Qu'un chanteur de marde, que tout le monde regarde comme un Christ d'attardé. Je crèverai donc comme un pauvre mononcle au foyer de vieillard. La couche toujours pleine grâce à ma vieille graine, loin des Allah Akbar. La couche toujours pleine grâce à ma vieille graine, loin des Allah Akbar.
Eh bien, c'est ce qu'on te souhaite. Merci d'être passé pour la 200e de l'émission Arrête ton char sur Radio Campus.
Merci de me souhaiter une couche pleine.
Et oui, c'était sur Radio Campus Montpellier, il y a quelques années. Mon oncle Serge Charlie Hebdo, vous êtes donc dans les studios de Radio Campus Montpellier. Nous sommes avec Laurent Dagorne, directeur de recherche à l'IRD et directeur de l'UMR Marbec. Et nous parlions, puisque c'était le sujet du Late Show, de ton et de DCP. Donc DCP, si vous n'étiez pas là au début, c'est dispositif de concentration de poissons. Et on va parler de leur impact notamment négatif. Donc on parlait effectivement de ces aspects potentiellement problématiques sur les populations de thon, mais il y a aussi d'autres impacts négatifs, Laurent. On va les évoquer et la question que j'aurais forcément, c'est est-ce qu'on peut derrière les supprimer, les réduire, sachant que c'est très utilisé par les thoniers sonneurs.
Alors oui, tout à fait. Il y a une histoire, je vous parlais tout à l'heure de cette belle histoire naturelle, d'essayer de comprendre pourquoi ils vont sous les DCP, c'est le genre de questions que les chercheurs vont adorer. Et ce qui est très intéressant en recherche aussi, c'est lorsque vous essayez de répondre à une question, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous allez répondre à une autre question que vous n'aviez pas imaginée. C'était notre cas, il y a une quinzaine d'années, on faisait beaucoup de campagnes en mer dans l'océan Indien, on était au large des Seychelles. Et justement, on n'étudiait pas que les thons, parce qu'il y a des requins qui sont aussi autour. On a vu dans le Late Show, il y avait, je crois que c'est Ricky...
Requin soyeux, c'est ça ?
Requin soyeux. Donc c'est un requin qu'on va retrouver très souvent autour de ces DCP avec les thons. Et donc, on étudiait ces requins. Et donc, on les équipait, comme on l'a vu là, avec des balises pour savoir où est-ce qu'ils vont.
Oui.
Et puis, d'autre part, on plongeait pour les compter, voir combien il y en a, etc. Quelle est la communauté de poissons. Et en fait, on s'est rendu compte... tout d'un coup, que ce soit en plongée ou avec nos observations, avec ces balises où on peut suivre les thons pendant des semaines et des mois, eh bien qu'on observait des mortalités de requins qui étaient complètement inattendues. Et en fait, on s'est rendu compte que ces requins se maillaient dans ces filets que l'on trouvait sous les radeaux de bambou, qui sont des vieux filets, c'est ce que je disais, il y avait des trous, etc.
Ouais, ouais.
C'est des filets qu'ils auraient jetés au port, puis finalement ils s'en servaient pour servir d'encre flottante. Et en fait, on s'est rendu compte que les requins se maillaient dedans et mouraient. C'est quelque chose qui n'était connu de personne, parce que c'était sous l'eau. Nous, on a pu mesurer combien de temps, d'ailleurs, un requin qui se maille, se décompose et coule. Ça dure un jour et demi. Ça veut dire que c'est très rapide.
Ah oui, donc en fait, pour le suivi de mortalité, typiquement, pour savoir s'il y a beaucoup de mortalité ou pas, c'est compliqué.
Donc, on ne le savait pas.
Et
c'est-à-dire
oui.
que les pêcheurs ne pouvaient pas le savoir.
Oui.
Les scientifiques ne le savaient pas, et bien entendu, les politiques, les gestionnaires ne pouvaient pas le savoir. Donc on est tombé sur quelque chose qu'on ne cherchait pas à étudier, et qui était devenu un impact extrêmement grand. On a mesuré cet impact, et on s'est rendu compte que, par exemple, dans juste l'océan Indien, qui est le plus petit océan des trois, cela causait la mort d'environ 500 000 à 1 million de requins par an.
Ah oui, donc c'est loin d'être négligeable. Ouais, ouais, ouais.
Et nous, on essayait de trouver des solutions pour sauver 80 000 requins qui étaient pêchés accidentellement autour de ces DCP lorsque les pêcheurs mettaient leur filet autour pour les thons. Donc on dépensait beaucoup d'énergie pour essayer de sauver 80 000 requins et on découvre que finalement, leur DCP, par leur design, pouvait causer 500 000 à 1 million de mortalité. Donc, typiquement, c'est une surprise scientifique, on ne s'y attendait pas. on le découvre, du coup tout le monde le découvre. La chance, c'est qu'on était sur une solution qui était très facile à trouver, c'est qu'il fallait supprimer ces filets, qu'il fallait les remplacer par des bouts ou des cordes qui faisaient que les requins ne pouvaient pas se mailler à l'intérieur. Et c'est ce qui a été fait, notamment avec les partenaires, les pêcheurs français avec lesquels on travaillait, qui ont réfléchi à des nouveaux designs, également avec une ONG internationale qui s'appelle l'ISSF, qui nous a permis de faire ça dans le monde entier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les océans, il y a des réglementations qui font que ces DCP ne peuvent pas avoir des filets dessous. Et donc, c'est une belle histoire que j'aime à raconter parce que c'était un impact qui n'était pas connu, qui était très, très grand. Et on a pu trouver une solution. Derrière, il a fallu que les politiques y suivent. Les politiques ont suivi, les pêcheurs ont suivi. Et ce qui fait qu'on se retrouve maintenant avec un des impacts qui était les plus importants, et bien finalement, qui est complètement éliminé ou en tout cas réduit à un très gros pourcentage.
Et c'est vrai que ça montre tout l'intérêt aussi de la recherche sur le terrain, d'aller chercher au plus près en fait, typiquement de ces dispositifs, pour observer ce qui se passe réellement finalement. Je reviens sur justement la quantité de DCP, parce qu'on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais il y a une réelle augmentation finalement du nombre de DCP déployés par bateau de pêche. Est-ce que ce n'est pas problématique, cette augmentation qui a l'air exponentielle?
Alors, il y a eu une augmentation qui a été complètement exponentielle et non régulée.
Oui.
C'est-à-dire que c'est assez intéressant. C'est une des pêcheries qui est les plus suivies au monde. Parce que c'est des gros bateaux, ils ne vont pas passer inaperçus. Et puis, de toute façon, ce sont des pays qui respectent les réglementations. Et donc, en fait, en général, ça veut dire qu'on va limiter le nombre de bateaux pour limiter la quantité en fait, qu'on va pêcher. Par contre, ces outils de pêche, ces DCP, n'étaient pas du tout limités. Mmh. Et en fait, ils sont devenus une réglementation il y a environ une dizaine d'années, simplement. Donc ça veut dire que jusqu'environ le milieu des années 2010, les pêcheurs pouvaient en utiliser autant qu'ils voulaient. Ça veut dire que chaque bateau pouvait en utiliser plusieurs centaines chaque année. Et donc il y a eu une prise de conscience qu'à un moment donné, il fallait peut-être limiter ce nombre de DCP.
Ouais,
et donc,
d'accord.
Il y a eu des premières réglementations qui sont arrivées. Alors d'abord dans l'océan Indien, puis dans l'océan Atlantique, et ensuite après dans l'océan Pacifique. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, chaque année, il y a des discussions qui sont faites au niveau des commissions internationales qui gèrent ces pêcheries de manière à respecter, à être sûr qu'il y a un respect de l'environnement océanique, de manière à ne pas pêcher trop de thon, parce que si vous pêchez trop de thon, de toute façon, il n'y a plus de pêcherie.
Mais oui, ça menace directement la filière, finalement.
Exactement, ouais. Ça menace directement. Et donc, effectivement, maintenant, il y a des régulations, et donc il y a un nombre limité de DCP que chaque bateau peut utiliser. Donc la recherche, elle sert justement à ça, c'est-à-dire qu'en fait, en regardant un peu les impacts du nombre de DCP, etc., ça nous permet, nous aussi, de conseiller les politiques, les gestionnaires de pêche, pour leur dire, mais écoutez, là, il faut réduire le nombre de DCP.
Et on parle beaucoup donc des DCP utilisés par les thoniers senneurs, mais il y a aussi donc ces dispositifs de concentration de poissons qui sont utilisés par, alors je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais une pêcherie plus traditionnelle ou en tout cas pour des plus petits bateaux qui sont le long des côtes. C'est ça, dans plusieurs pays, c'est réalisé régulièrement.
Tout à fait. Là, on parle effectivement de cette pêcherie, on va dire, très hauturière avec des bateaux qui sont gros et qui pêchent sur ce qu'on va appeler, nous, des DCP dérivants. C'est-à-dire qu'ils dérivent, c'est pour ça qu'ils ont ces bouées satellites pour les localiser.
Ouais.
Mais en fait, il y a beaucoup de pays tropicaux, et notamment des petits pays insulaires, qui en fait ont développé ces pêcheries. Alors surtout dans les années 80, il y a eu quelques pays en Asie du Sud-Est qui avaient développé ce genre de pêcherie depuis les années 50, voire un peu avant. Mais c'est surtout dans les années 80-90 où ils ont décidé en fait de créer des grosses bouées qu'ils ont ancrées près de leur côte. Alors c'est quand même des endroits où les fonds vont à 1000 mètres ou 2000 mètres parce que ça descend très très vite. Et donc ça leur a permis, en fait, ces bouées fixes attirent du thon de la même manière que ce qu'on disait lorsqu'on est au large. Et donc ça permet à ces populations d'aller pêcher finalement ces thons qui sont difficilement accessibles, parce que quand vous avez des petits bateaux, vous ne pouvez pas aller passer 4 semaines en mer.
Et oui, bien sûr, aller très au large en fait.
Exactement. Ouais. Donc là, ils vont finalement juste à 2 heures, 5 heures de route, de navigation, et puis ils peuvent pêcher. Donc c'est souvent des petits bateaux. Après, il y a certains pays qui ont des bateaux un peu plus gros, mais c'est jamais des bateaux qui ont la taille des thoniers seigneurs, puisqu'il n'y a pas besoin de rester des semaines et des semaines en mer. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes pour beaucoup de pays insulaires. Vous allez l'avoir dans tous les océans. Dans le Pacifique, vous allez avoir, par exemple, la Polynésie française, Fidji, Hawaï. Et puis, dans l'océan Indien, par exemple, il y a un pays qui est emblématique. c'est les Maldives. Les Maldives, c'est un tout petit pays, on est d'accord. C'est un long archipel qui fait 800 km de long. C'est une population d'environ 400 000 habitants, je crois. Eh bien, en fait, c'est une population qui dépend entièrement de la mer pour se nourrir. Et c'est une population qui, ancestralement, a toujours pêché le thon, ce qui est assez étonnant parce qu'ils ont des récifs coralliens. Mais ils ont traditionnellement, il y a même des écrits qui remontent à 700 ans en arrière, où on voit qu'il y avait des pêches sur, justement, des billes de bois qui passaient à proximité des Maldives. Et donc, ce pays-là a mis en place, dès les années 80-90, tout un réseau de DCP ancrés. Mais d'accord, avec très peu de DCP ancrés, ils ont décidé d'en mettre une cinquantaine. Ils ont décidé de faire en sorte que chaque petit village de pêcheurs ne se retrouvait pas à plus de 2 heures de navigation d'un DCP, de manière à pouvoir y aller et puis pêcher. Alors, c'est une vraie pêcherie importante, hein. C'est une pêcherie qui pêche beaucoup de thon. C'est-à-dire que c'est un des premiers pays pêcheurs, du coup, grâce à ça, dans l'océan Indien. Mais c'est une ressource essentielle, non seulement, on va dire, pour leur alimentation, hein, pour leur souveraineté alimentaire, mais également pour leurs exportations.
Et finalement, là, les DCP sont totalement des biens communs, partagés par l'ensemble des pêcheurs, et pas des, je dirais, des propriétés privées de certaines pêcheries.
Exactement. Et c'est effectivement, il y a deux types de modèles dans le monde. Mm-hmm. C'est un bien commun, partagé, ou c'est au contraire quelque chose qui est privé.
On va faire encore une très courte pause musicale, alors cette fois-ci avec Kate Skuna. Comment le présenter ? C'est un chanteur, c'est un poète punk, c'est une figure incontournable de la scène alternative québécoise, notamment avec le groupe Les Ghouls. Kate Skuna est déjà passé à Montpellier et on m'a soufflé que la ferme marine des Arresqués s'en souvient car le concert était extrêmement agité, on va dire ça. La chanson s'appelle Crabe. On écoute tout de suite cette chanson à l'humour absurde, tendu, quasiment surréaliste, donc de Kate Skuna. À tout de suite.
J'ai trouvé dans mon bol, était tout seul, était perdu, j'étais couché là dans le sable, la matinée est belle et bronzée, et puis là, dans mon bol, je l'ai vu et me suis dit qu'il est beau, le carapace, il a des pattes qui s'étirent et de grands yeux d'or, demandez-moi. Et les mecs que j'en ai fait,
qu'est-ce qu'on a fait?
Je l'ai pris, ramené chez moi, puis là je l'ai montré, puis j'ai été
enchanté, enchanté.
Je l'ai veston, j'ai appris des tours des fais-y le beau, faisais le beau sur ses pinces, c'est caille, caille, caille. Camisole peinturée en jaune et en bleu, c'était le plus beau des crabeux. Tellement de ciel de dame, moi, il le gardait dans ma poche. Je voulais pas le montrer, mais tu sais, c'est quand je recevais des invités, c'était plus fort, je le sortais et criais
enchanté.
Tigre des eaux bras, cadabra, tête de chat et corps de mer, un coup de pute de pâte, pute de pince, mangeait des bœufs et cherchait milieu à que je l'ai saigné. À coup de mort, pouvais plus le garder, pouvais plus le mettre dans ma veste, ma veste lienne, grosse pepe peine. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré car je ne pouvais plus hurler.
Enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de poche.
Thank you.
Enchanté, enchanté.
Et nous sommes de retour sur Radio Campus Montpellier. C'était Ketz Kuna. Nous allons terminer cette émission spéciale donc avec le Late Show de Ninette La Dorade. Alors nous, on parle pas de Dorade depuis tout à l'heure. On parle bien sûr de Ton avec Laurent Dagorne qui est directeur de recherche au sein de l'IRD et à l'UMR Marbec. On va terminer cette émission par parler du projet en fait finalement hein, qui est un peu le projet qui nous permet de parler de DCP et de Ton, où il y a énormément de recherches sur ces dispositifs de concentration de poissons. Je veux bien sûr parler du projet MANFAD. Laurent, quels sont un peu les grands objectifs de ce projet et donc les différents aspects de recherche qui sont à l'heure actuelle très attendus, je dirais, par justement les Tony Sonneurs?
Alors ce projet MANFAD a été financé par France Filière Pêche, qui œuvre justement pour développer des recherches afin d'améliorer la durabilité des pêcheries françaises. Et donc nous, on a monté ce projet avec Hortongel, hein, qui est l'association des amateurs de thoniers tropicaux, donc qui pêche justement les thons et notamment autour des DCP. Mais on a aussi développé dans ce projet un partenariat avec des collègues indonésiens, et un partenariat avec notamment l'ISSF, l'ONG dont je parlais. Et l'idée derrière tout ça, c'était qu'il y a 4-5 ans, quand on a démarré, tout le monde parlait effectivement de cette limite du nombre de DCP dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, il n'y avait aucune base scientifique. C'est-à-dire que vous pouviez avoir les pays qui débattaient chaque année des heures et des heures, des jours, pour dire... Est-ce qu'il faut limiter à 350? Est-ce qu'il faut les supprimer complètement? Est-ce qu'il faut
sans
en mettre
chiffre, sans chiffres scientifiques,
sans aucune base scientifique.
D'accord.
Et donc, quand vous êtes dans une incertitude scientifique, c'est très compliqué pour les gestionnaires de prendre des décisions, mais également pour les pêcheurs, parce que c'est important, c'est un outil très important. Et donc, le but de ce projet, c'était ça. C'était d'essayer de fournir des informations, des nouvelles connaissances. La recherche, c'est de fournir des nouvelles connaissances aux gestionnaires et aux pêcheurs, afin d'essayer de voir quels seraient les bons chiffres, les bons nombres. Et pour ça, le projet, en fait, a bien sûr étudié le comportement des poissons. Est-ce quand il y a beaucoup de DCP ou moins de DCP, est-ce qu'il y a beaucoup plus de thons? Est-ce qu'il y a moins de thons qui s'y mettent? Donc, on a regardé tout cet aspect d'écologie, de comportement, mais on a regardé également des aspects économiques, parce qu'une pêcherie, effectivement, il y a un aspect économique. Mmh. On a regardé l'aspect social, l'impact sur les marins qui sont à bord de ces bateaux, parce que ça peut modifier leur métier également. Donc on a regardé plusieurs aspects différents pour finalement essayer d'apporter différents types de scénarios, différentes options, de manière à ce que ces débats internationaux sur le nombre de DCP par bateau puissent reposer sur des connaissances scientifiques.
Et c'est vrai que c'est important aussi de rappeler que de ce que vous me dites, Laurent, c'est une recherche interdisciplinaire, parce que finalement, il n'y a pas que des biologistes derrière.
Exactement. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé comportement, biologie, etc. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont spécialisées dans d'autres domaines, notamment donc la sociologie, l'anthropologie, l'économie, de manière à apporter justement des informations. Et c'est qu'une recherche interdisciplinaire, parce qu'une pêcherie, ça part effectivement du bon état des océans, mais ça va aussi vers les hommes, parce qu'on pêche pour nourrir des hommes et on pêche aussi pour faire vivre des communautés.
Merci beaucoup Laurent Dagorne donc pour cette émission autour du Late Show de Ninette. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet du projet MANFAD si vous voulez en savoir plus. Hein. Donc c'est la fin de cette émission, vous l'aurez compris. Le Late Show de Ninette, c'est un podcast de fiction scientifique pour le jeune public où des personnages marins rencontrent de vrais chercheurs. Vous retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de Ninette La Dorade ou alors ninette.show. Cette émission est réalisée dans le cadre de la Journée mondiale des océans en partenariat avec l'UMR Marbec. Merci beaucoup pour la préparation de l'émission et pour le Late Show, puisque c'est une idée originale de Luc Marquive, réalisateur audiovisuel au sein de l'IRD et l'UMR Marbec. Et merci beaucoup à Lily, à Yanis, à Tom de Radio Campus Montpellier pour la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à tous ceux et celles qui nous diffusent. On est diffusé à Bordeaux, Paris, Corté, Tours, Grenoble, Caen et Clermont-Ferrand et bien sûr Montpellier. On se quitte en musique. Portez-vous bien et à bientôt.
Spiegarti che non so pensare ad altro e non ho voglia di farlo. Vorrei poterti rincontrare sulla Senna, accarezzarti a sole stesi in riva al Trebbia, poi sesso un plesso dopo pranzo e la voce del Bluetooth, il caffè quello non lo faccio, che lo fai meglio tu. Oh, tu mi farai impazzire, ma quando t'ho incontrato non posso più dormire. Oh, luci, mi sento tutto strano, guidavo in contromano, l'ho preso in faccia a un muro. Vorrei svegliarmi nudo in fretta sopra il letto con sul suo palco, sul tuo canapè, ed ascoltare Morgan Dalla, improvvisare un De André, scendo la tram e ballo il mambo e poi ti porto con me. Oh Lucia, tu mi farai impazzire, ho scritto una canzone e canto come un matto. Oh Lucia, la lave sta when you're on top.